Noël, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumoudébi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Richard Lorna qui nous accompagne au clavier. Et notre invité, Monsieur Yann Moix. Bienvenue à ce micro. Yann, il a déjà commencé à dessiner sur la table, Yann.
C'est fait pour.
C'est pas un enfant sage. Tout va bien, Yann ?
Tout va très bien, merci de me recevoir.
Vous serez gentil avec nous ?
Ravi. Non, c'est l'inverse, hein. Là c'est lui qui est sur le tabouret en danger.
Oui, on sait jamais, peut-être que le naturel va reprendre le dessus et vous en
mon naturel, c'est la gentillesse. Hein.
Ah, tant mieux.
Vous savez.
Chez Grasset, pourtant, il signe un livre qui s'appelle Terreur, que nous avons lu. J'espère que vous avez bien compris, Tom. J'ai un peu peur. Méfiez-vous de Tom Villa. Vous avez compris pourquoi on l'a invité ?
Ah si, pour le buzz. On a planqué Michel Enfant en coulisses. Et puis ouais, on sait jamais, ça peut... Non, alors je le précise pour nos auditeurs, c'est pas le chroniqueur qui vient ce matin, mais l'écrivain, prix Renaudot 2013. Un drôle de nom d'ailleurs pour un prix aussi prestigieux, on dirait un croisement entre un chanteur et un morceau de viande, c'est très bizarre. Yann Moix, vous venez nous présenter votre dernier livre qui s'appelle donc Terreur. Alors au début je me suis dit tiens c'est le livre d'or des invités d'ONPC, et pas du tout, c'est toutes vos analyses.
ONPC
et...
c'est
on n'est pas couché,
on pas couché. Oui,
t'es tellement atterri dans la
merde. T'es tellement hashtag.
Moi je parle en hashtag, exactement.
tellement relou.
c'est Terreur, votre livre c'est toutes vos notes et analyses suite aux attentats. Alors vous, vos pensées sur ce sujet tiennent dans un livre de 256 pages, bravo, voilà, parce que moi la seule pensée que j'ai eue aurait tenu sur la couverture, ça aurait été « Oh putain les fils de pute !» Et puis bon, c'est compliqué pour le Goncourt, hein, et trop méchant pour les prostituées. Et vous dites d'ailleurs avoir mesuré l'importance dès le 11 septembre 2001, vous aviez fait une lettre dès le 12 septembre dans Libération, et vous dites « On ne s'excuse pas d'avoir eu raison trop tôt ». Alors oui, mais ça dépend pourquoi. Voilà. Il y a des fois où on s'en fout. Par exemple, Nagui vous a invité ce matin, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, et effectivement, je vais pas m'excuser. En revanche, quand François Hollande dit qu'il se représente pas, même s'il a raison, un petit désolé, eh ben, ça mange pas de faim. Voilà. Alors, dans votre livre, vous dites, ça mange pas de pain aussi. Oui, c'est, oui. Mais là, j'ai faim. C'est pour ça.
C'est vrai?
Ouais, t'as une barre granit?
Tu peux laisser finir ça.
Non,
ça,
c'est pas grave. Alors, dans votre livre, Yann Moix, vous dites, par exemple, imaginons que les terroristes, avant chaque carnage, se mettent à chanter un refrain des Beatles au lieu de crier à la Wakbar. Eh ben, on finirait bien, au bout d'un moment, par aller regarder ce qu'il y a dans la discographie des Beatles et ce qui déclenche cette folie. Ça dépend aussi. Si ils chantent Live and Let Die, c'est cohérent. En revanche,
c'est pas les Beatles, Live and Let Die.
Oui, c'est Paul McCartney. C'est Paul McCartney, mais il a fait partie un petit peu des Beatles.
Faut être précis.
Ah, tu vois, il commence.
Oui, quand on attaque les gens, faut le faire avec précision.
Non, c'était pas une attaque. Non, non, mais en tout cas, s'ils chantent Yellow Submarine, ça c'est les Rolling Stones, et ben on va dire, ils sont complètement cons. Voilà. Non, alors après, les Beatles c'est cool. Par contre, le terroriste qui te chante T'es To Be Free, c'est la double peine. Partir un jour sans. Voilà, ça c'est terrible quoi. Alors vous dites par exemple que Salah Abdeslam et sa bande ont inventé le martyr bobo. Voilà, moi je vous le dis, je pense sincèrement que le bobo est une catégorie qu'on pouvait jamais imaginer associer au mot martyr, si en fait Abdeslam l'a inventé, le martyr bobo. Déjà le bobo est un martyr de base, il bouffe du quinoa, il porte des pantalons trop courts, des t-shirts de beauf et la moustache de Freddie Mercury. Niveau martyr, Sainte Blandine, elle peut les retourner se faire bouffer par les lions, moi je vous le dis direct.
Tu vas avoir plein d'amis toi.
Mais c'est pas grave. Alors vous dites aussi, à propos des terroristes, les terroristes sont à la vis que le cendrier est à la cigarette. C'est vrai, ils sont sales et ils puent. Voilà, pour moi les terroristes c'est même carrément la cigarette. Ils arrivent encore à en fumer des gens malgré que ça fasse qu'accélérer leur mort, et tout ça malgré les images dégueulasses sur les paquets. Bref, je sais pas si j'ai tout compris Nagui, mais si vous voulez avoir un éclairage brillant, en tout cas sur ces terribles attentats, ouais. La terreur est faite pour vous.
Merci Guillaume. La bande originale. Nagui. Sur France Inter. Ouais, ce qui est clair, c'est que vous avez donc réuni des notes que vous avez prises. La lettre dont parlait Tom Villa, que vous aviez écrite, est publiée aussi comme si vous aviez vu avant l'heure, ou en tout cas vous n'avez pas changé d'avis depuis cet attentat du 11 septembre. Ce qui a déclenché en tout cas les notes que vous avez prises, est-ce que c'est la peur de la mort, ce que vous dites aussi à un moment donné dans le livre ?
Non, la peur de la mort, on l'a tous, j'imagine. À part justement peut-être ceux qui commettent les attentats, et encore, il y a deux catégories, il y a ceux qui les commettent de leur vivant, et puis il y a les zombies, il y a ceux comme Laouej Boulel, celui de Nice, qui à mon avis était déjà mort en fait avant de commettre l'attentat, et qui a, si vous voulez, choisi le mode de l'attentat pour en profiter pour mettre fin à ses jours. Il se serait peut-être déjà suicidé dans sa chambrette s'il n'y avait pas eu Daesh, parce que Daesh revendique tout à l'avance, donc ça permet aussi aux zombies, aux suicidaires, de faire passer en contrebande leur envie de mourir. Donc c'est pas par peur de la mort, c'est par peur des attentats, mais c'est peut-être la même chose. Mais si vous voulez, quand je me lève le matin, je pense pas que je vais mourir le soir, alors que c'est possible de mourir en tant que piéton, en tant que conducteur, n'importe où. Mais l'émission, si vous voulez, d'une nouvelle façon de mourir dans la société, française en tout cas, c'est ça qui fait peur. Parce que la probabilité de mourir dans un attentat est faible.
C'est-à-dire, enfin, oui, alors, on va là, vous, presque, vous commencez à raconter le livre. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est la démarche et la construction.
Les attentats de Charlie.
Ce sont des notes que vous avez prises. Que vous réunissez un peu par thème, d'ailleurs. Ce qui fait qu'il y a par moment des phrases qui se répètent, mais comme un supplice chinois ou comme un marteau où vous pilonnez à un endroit parce que c'est l'endroit où ça fait mal. Il y a beaucoup d'aphorismes avec cette idée de jeu de mots, mais de jeu de mots qui n'est pas que dans la forme, mais le fond, heureusement, est là, parce que c'est ce qui est fort, c'est ce qui est prenant, c'est-à-dire que vous jouez avec des mots, même avec leur structure, leur musicalité, leur étymologie, mais ça veut toujours dire quelque chose, ça cache quelque chose. Et puis surtout, vous avez une analyse des terroristes. En effet, comme vous dites, ça peut être n'importe quel fou décide d'aller tuer une foule. Il va dire « je fais au nom de Daesh », puis Daesh va dire « bah ouais, c'est nous qui l'avons envoyé, comme ça on continue de vous faire peur ». Mais là où vous êtes encore plus impressionnant dans votre analyse, c'est tout ce que vous dites, par exemple, sur l'histoire. Le fait qu'il cherche à marquer l'histoire, peut-être en faisant même un attentat un 14 juillet, en s'accaparant cette date, en voulant rentrer dans l'histoire, vous dites même Hitler, lui...
Il a créé ses propres dates.
Sans le cautionner, vous prenez évidemment toutes les précautions.
Celui qui cautionnerait Hitler, je pense, ne serait pas invité sur France Inter.
Non, mais c'est clair. Mais
j'espère.
On est éclectique.
Je préfère le dire des fois que quelqu'un dise « Ah, mais ils ont fait l'apologie d'Hitler ». Loin de là. Évidemment, vous reconnaissez sa folie et son danger, mais vous dites au moins il avait il est rentré dans l'histoire, il a construit une histoire, ce qui ne sera pas le cas des terroristes et de Daesh.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. C'est vrai que l'attentat du 14 juillet à Nice, on peut pas s'empêcher de penser que le terroriste en question a voulu commettre son acte le jour d'une date historique et donc s'accaparer
Nous voler le 14 juillet 1789.
Voilà, qui est quelque chose d'universel et d'historique pour remplacer par sa minable date personnelle qui serait son 14 juillet portatif à lui. C'est-à-dire que ça serait le 14 juillet de la Wayesh Boulel et non plus le 14 juillet de la Révolution française.
Et là, ça va quand même rester dans les esprits.
Et le problème, c'est qu'on va commémorer maintenant, en tout cas pendant un certain temps, à la fois la Révolution française...
Le président de la République sera le matin à Paris et l'après-midi, il ira
se recueillir à Nice.
Mais de façon tout à fait sordide et calculée aussi, il savait qu'au 14 juillet, il y avait un énorme rassemblement de foule, et c'est aussi pour ça...
Tout ça converge, oui.
Bien sûr.
Et alors, la deuxième chose, effectivement...
Avec, pardon, aussi une analyse que vous faites, parce que c'est là où vous extrapolez aussi, et c'est encore plus bouleversant, c'est de dire il est venu repérer. Il est venu repérer plusieurs jours, il est venu repérer la veille, et peut-être que la veille, il y a des personnes qui étaient là et qui étaient comme des figurants de leur mort annoncée.
Une sorte de répétition. Ouais. Ce qui m'a toujours, alors il y a plein de choses là, mais ce qui m'a toujours fasciné dans le terrorisme, si vous voulez, prenons le 13 novembre 2016. Si vous aviez croisé le gang dans la journée, les mecs vous auraient bousculé dans le métro, vous auraient peut-être même demandé pardon dans un supermarché, vous ne les intéressiez pas. Ce qui les intéressait, c'était l'heure précise dans un quartier précis. Et si vous les aviez croisés à 14h, vous n'auriez rien eu, mais le fait de les recroiser à 22h50 dans le 11e arrondissement, là, tout d'un coup, vous étiez leur victime.
Et c'est de là que naît la terreur, c'est-à-dire pour vous de dire, on se demande pas combien de temps il nous reste à vivre, mais quand la mort va arriver, c'est un point de vue où on se dit pas quand aura lieu le prochain attentat, on se dit il y a eu combien de temps ou de semaines écoulées entre deux attentats différents.
Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que...
La notion même de temps change.
Oui, voilà, exactement, ça c'est à mon avis très juste de le dire comme vous le dites, parce que par exemple, nous, nos martyrs sont dans le passé. Ils sont morts hier ou avant-hier. Les martyrs des terroristes sont dans l'avenir, dans le futur. C'est demain ou après-demain.
Donc on est en sursis.
Mais sauf qu'on n'est pas à égalité de martyrs, si vous voulez. Nous, nos martyrs, c'est déjà fait. Eux, leurs martyrs, c'est encore à faire. Et la date du prochain attentat, ils l'ont dans la tête depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que leur futur est quelque chose qu'ils ont déjà en tête et qui appartient en fait perpétuellement au présent jusqu'à temps que l'attentat ait lieu. Ils ont toujours un futur d'avance et surtout la date du prochain attentat, ils vont se poser dessus. L'attentat viendra se poser sur la date du calendrier. Ils ne seront que les interprètes ou les marionnettes de quelque chose préparé 6 mois ou 1 an à l'avance.
Et vous n'aimez pas l'expression de la guerre quand le président de la République dit, parce que vous vous a cédé aussi cette phrase, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, dans différents billets que vous notez, différents paragraphes. Vous n'aimez pas, enfin, vous ne cautionnez pas cette tournure d'idée parce que une guerre a un territoire, a une armée, a des codes. Et là, c'est une guerre dans l'esprit. Puisque...
Alors, ça a changé. Enfin, en, le 12 septembre 2001, j'avais écrit la chose suivante qui s'est révélée exacte, qui est que jadis, c'était les États qui faisaient la guerre, mais aujourd'hui, c'est la guerre qui fait les États. Et que c'est difficile, si vous voulez, de penser que Daesh, c'est une simple géographie. Daesh, ça mute. D'abord, c'est une géographie qui change quasiment tous les deux jours. Et c'est une géographie qui continuera dans les cerveaux et dans les mentalités le jour où l'État islamique n'existera plus sur le terrain. Il perdurera dans les esprits.
Donc, c'est une guerre sans fin.
Une guerre sans fin. Sur Internet, et moi, je dis quelque chose qui n'est pas du tout politiquement correct, comme on dit, c'est que si guerre il y a, il faut la faire à Raqqa et à Mossoul, mais aussi il faut la faire dans les chambres des adolescents. Il faut les faire dans les chambrettes. Si c'est une guerre, on a la preuve que cette guerre a lieu ici en France, sur Internet, dans les chambres et sur le terrain.
Et on en vient par l'un des aphorismes que je qualifierais, enfin, de mon point de vue, comme étant le meilleur de tous, parce qu'il y en a beaucoup, c'est très riche et très dense. Je vais mal la traduire, mais c'est justement ce jeu de mots que vous faites entre l'instruction que ces personnes n'ont pas reçue et les instructions qu'ils ont reçues. C'est peut-être qu'un jeu de mots, mais c'est d'un coup, on passe du singulier au pluriel, et on passe du manque d'éducation et de la bêtise de certains à des ordres qui sont donnés et à des exécutions de ces ordres qui peuvent être suicidaire ou même meurtrier. C'est la force parce que l'éducation a aussi un rôle important.
Et oui, ça fait beaucoup de sens. Alors moi, ce qui m'a plu dans ce livre, Yann Moix, c'est que vous êtes attelé à un sujet difficile, surtout à une mission difficile, c'est de penser ces attentats. Le bouquin est sorti juste là, il a fallu, j'imagine, un peu de temps pour digérer tout ça, parce qu'on peut pas sortir ça deux semaines après, sinon ça ferait de vous un vulgaire commentateur. Et c'est aussi une tradition dans laquelle vous vous inscrivez, celle de l'auteur qui pense ce qui se passe dans autour de lui, dans les événements contemporains. Et ce qui m'a plu, c'est de non seulement d'essayer de trouver, et on le voit dans le bouquin avec l'évolution de page en page, de préciser la pensée et de dire simplement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, que le premier fou venu peut tout d'un coup se revendiquer de quelque chose auquel il n'appartient pas du tout et Daesh va tout de suite publier un communiqué en disant il fait partie de notre groupe.
Mais la revendication précède l'action, voilà. C'est la grande nouveauté de Daesh.
Et ça c'est vraiment nouveau et c'est très intéressant de voir comment vous décryptez tous ces phénomènes-là avec les communications, la nouvelle façon de communiquer aussi hein, de ce groupe terroriste.
La propagande.
Et ce qui m'a aussi bien interpellée, c'est d'essayer de trouver... On parlait d'instructions à la maison et les instructions, à savoir les ordres donnés et téléguidés hein, par ce groupe islamiste, c'est de voir aussi comment vous ne mélangez pas tout. Et ça m'a un peu rassurée. D'expliquer aussi que ces personnes-là sont souvent au seuil de la société, mis au banc de la société, sans les excuser.
Pas tous,
mais en tout cas d'essayer de justement pas tous, parce qu'on peut pas avoir de propos généralistes.
Exactement.
Et c'est ça qui compte.
C'est la meilleure chose qu'on puisse dire, non pas du livre, mais de la réalité, c'est que les grilles de lecture ne marche pas.
C'est ça.
Quand Olivier Roy s'oppose à Gilles Kepel, il y en a un qui dit que la radicalité précède la mystique et l'autre dit que la mystique précède, l'islam précède la radicalité. Islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islam, les deux sont vrais.
Oui.
Tout marche. Il y a des gens qui sont bac S, mention très bien, dont les deux parents sont médecins, qui vont se faire exploser à Raqqa, et d'autres, effectivement, qui ont des problèmes sociaux graves. Mais tout est possible. C'est ça que j'essaie de montrer. Il n'y a pas de systématisation possible.
Pas de profil type.
Tous les spécialistes ont raison d'une certaine manière.
Et c'est ce qu'avait représenté Bertrand Bonello dans son film Nocturama qu'on avait reçu à la rentrée, où justement il y avait toutes les classes sociales, toutes les origines.
C'est ça.
Ouais, et c'était pas systématisé.
Non, mais parce que vous dites, le terroriste ne veut rien. Là aussi, c'est un, non pas un jeu de mots, mais ça dépend où on met la ponctuation et où les deux points ouvrent les guillemets. Il ne veut rien. C'est pas qu'il ne veut rien, genre je m'en fous. Il veut deux points. Rien.
C'est pas la même chose de ne rien vouloir et de vouloir rien.
Voilà, c'est ça.
Mais tout à l'heure, on recevra un brillant historien et encore, on n'en est même peut-être plus au nihilisme. Le nihilisme, c'est encore une catégorie intellectuelle qui ne correspond sans doute pas au terrorisme de Daesh.
Des rienistes, alors.
Oui, si on fait... Parce que le nihilisme, c'est encore, si vous voulez, il y a un projet dans le nihilisme. Ouais.
Non, il y a juste un aphorisme sur lequel je ne suis pas totalement d'accord. C'est de mémoire, alors
non,
pardon. Vous dites que le terrorisme est à la mort ce que la masturbation est à l'amour.
Ouais. C'est pas mon meilleur, effectivement.
Non, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que...
D'ailleurs, je ne m'en souvenais pas.
La masturbation, le terroriste donnerait la mort, il se suiciderait, ça serait un kamikaze. case. Je parlerais plutôt d'un violeur à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il force l'autre à être dans un acte que l'autre n'a pas choisi, n'a pas voulu.
Il faut abandonner l'aphorisme, je pense.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas abandonner l'aphorisme. Si vous voulez, il y a des aphorismes et de temps en temps, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, c'est simplement que j'ai pas trouvé le bon aphorisme. Oui. Mon souhait aurait été de trouver le bon à chaque fois, mais il y a quand même un rapport entre la misère sexuelle et le terrorisme. Oui. Si vous voulez, la grille socialisante ou sociale, j'y crois moyennement. En revanche, je suis persuadé, intimement persuadé, que la misère sexuelle et la misère sentimentale entrent en jeu. Il y a des gens qui sont tellement timides, qui sont incapables d'aller aborder une femme dans la rue, mais ils sont capables, en revanche, d'aller se faire exploser à Mossoul. Et d'ailleurs, David Thompson explique très bien, soi-disant,
pour retrouver des vierges
qui les séparent, ou alors des femmes vivantes qu'ils attendent sur les réseaux sociaux de Daesh une fois sur le terrain. David Thompson, dans Les Revenants, explique, et j'étais sidéré parce que j'avais eu cette intuition, mais je n'avais pas la preuve, que la motivation première de ceux qui partent faire le djihad, c'est rencontrer des femmes. Choper de la meuf, en gros.
C'est fou, ça.
Et la théologie arrive en troisième position. La deuxième position, c'est l'immobilier, avoir un bel appartement. Et c'est connexe avec la rencontre des femmes.
C'est là que tu vois que Mythique et Century 21 font pas du tout leur boulot.
Adopte un barbu.
Non, mais c'est intéressant comme point de vue, parce qu'on a tendance extérieurement à juste considérer que ces personnes sont animées par une forme de folie mystique. Et tout d'un coup, replacer ces éléments-là dans le contexte, moi, je trouve que ça permet de faire avancer le débat. Et je m'adresse à l'homme de lettres, parce que j'ai été très sensible à la rigueur dont vous avez fait preuve en termes d'utilisation du vocabulaire, parce que c'est capital. C'est vraiment capital.
Sur ce genre de sujet, oui.
Alors, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une forme de trou béant quant au vocabulaire à employer, où certains termes, certains adjectifs renvoient directement à une religion, et que plutôt que de favoriser la réunion des gens pour lutter ensemble, on favorise une forme de dissension ou un sentiment de mettre, quand on dit voilà, islamiste. Mais au-delà de ça, c'est moi, je parle des gens qui tout d'un coup veulent simplement vivre ensemble heureux et de façon bienveillante, et qui se sentent quelque part par les mots. Et les mots sont violents, relégués à une catégorie à laquelle ils n'appartiennent pas.
Ah ben vous avez tout à fait raison, ça me fait plaisir que vous souligniez ce passage, ce problème, parce que, Nagui, en fait, voilà le problème. Les hommes politiques, toute la journée, veulent incarner une laïcité, pour la plupart, hein, à gauche comme à droite, pure et dure. Et là, je vois une contradiction, mais totale. Ils veulent dire la laïcité, c'est important, la loi de 1905, c'est fondamental, mais le lendemain d'un attentat, la première chose qu'ils font, c'est... Amis musulmans, je vous en supplie, ne prenez pas ça personnellement. Et amis juifs, je vous en supplie, n'ayez pas peur. Mais je veux dire, si on incarne la laïcité, le lendemain d'un attentat, on dit « Français, je suis là pour vous protéger, et je parle bien aux Français, et il n'y a que des Français en France. Et grosso modo, que vous soyez musulman, je m'en fiche royalement, que vous soyez juif, c'est votre problème. »
Mais qu'est-ce que pour ça moi, veut dire ce choix, justement, d'interpellation ?
Mais on en arrive à ce paradoxe que ce sont les hommes politiques qui inventent les catégories. Et ce ne sont pas, par exemple, les musulmans qui s'inventent comme catégorie. Il faut bien dire à nos auditeurs que la communauté musulmane n'existe pas, pour une raison très simple. C'est qu'un musulman ne se pose pas toute la journée la question de savoir s'il est musulman, sauf si on lui rappelle. Il y pense même presque jamais par définition. Si vous voulez, quand on est, moi je suis baptisé, je n'y pense jamais, quand on est musulman, on pense même sans doute à tout sauf à ça, puisqu'on l'est. Il n'y a que les autres qui pourraient y penser à votre place. On pense à quoi ? Avoir une voiture, avoir un travail, avoir une vie intéressante, avoir une chérie. Non mais je veux dire, être heureux comme tout le monde. Si vous voulez, il n'y a que les non-musulmans qui peuvent penser toute la journée qu'un musulman pense qu'il est musulman. Et pour les juifs c'est la même chose, etc. etc. Vous pensez pas toute la journée que vous êtes Nagui, vous faites votre travail. Il y a que les autres qui vous disent « Ah, tu es Nagui !» Mais vous, vous dites pas « Tiens, je suis Nagui !»
Mais comment faire marche arrière là-dessus ? Parce que le mouvement,
il a été
entamé.
Donc les hommes politiques inventent les catégories en voulant les rassurer. Quand ils disent « Je ne veux pas que nos amis musulmans pensent qu'on les amalgame et qu'on les stigmatise. » Mais je veux dire, là, la catégorie, elle est inventée de toutes pièces par des hommes politiques de l'extérieur.
Mais je crois vraiment que c'est aussi une histoire de récupération politique.
Bien sûr.
À des dessins électoraux.
Évidemment.
Parce qu'on sait très bien que les pourcentages de gens qui votent majoritairement en France sont des gens plutôt à droite. Ils votent, on le voit, les pourcentages du Front National sont toujours à peu près les mêmes, peu ou prou. Et on sait très bien qu'en créant une dramaturgie autour de ces communautés, on a un socle de votes qui arriveront toujours.
Non, mais la gauche aussi essaie de récupérer les voix des musulmans.
Bien sûr, mais après il y a aussi le pendant inverse, c'est-à-dire le côté gauche angéliste ou tout ça qui joue aussi sur son électorat. Je pense que c'est vraiment à des fins électorales qu'on
cristallise
on crée
des catégories électorales en créant
Ça s'appelle Terreur, ce sont des billets, des notes qui ont été publiées non pas dans un ordre chronologique, mais
elles ont été écrites
par thème.
Et après je les ai mises, voilà, de manière thématique.
Réunies par thème. Vous dites à propos de religion d'ailleurs que lorsque les attentats visent les juifs, on devient juif quand on a été assassiné par quelqu'un qui voulait... pour vous, la définition, c'est une fois mort, la victime devient encore plus juive aux yeux du terroriste.
Je dis qu'en fait, par exemple, on a connu un antisémitisme où le juif était la personne à abattre, alors que pour Koulibaly, la définition d'un juif, c'est la personne que je viens d'abattre.
Et ça fait revivre des moments durs de notre vie.
Ça donne à penser. Ça donne à penser.
C'est
plutôt...
Ce qui est le but.
Je pense que c'est salvateur parce que
il n'y a pas de solution proposée. Il y a simplement beaucoup de choses à la fois factuelles et réfléchies.
Et sans prétention, surtout, parce que je dis bien que tout le monde est un spécialiste du terrorisme. Moi, je suis un spécialiste du terrorisme, comme tous ceux qui sont à cette table et tous ceux qui sont dans le public. On est spécialiste du terrorisme parce qu'on est tous concernés. Donc il n'y a pas de prétention de spécialiste. J'accepte même parfois de me tromper, d'avoir des formules, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, peut-être un petit peu évasives ou pas totalement précises. Mais j'ai essayé d'avoir l'honnêteté et l'humilité de laisser tout le travail d'essai, quoi. Un essai, c'est quelque chose qui essaye, finalement.
C'est ça. Et vraiment, penser les attentats, moi, je trouve ça très courageux. Et on peut ne pas être d'accord sur tout.
Oui, bien, c'est
moi, il y a plein
ça,
de points sur lesquels j'ai des doutes. Mais je trouve que justement...
Vous pouvez me demander...
à une autre occasion. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, ça m'a donné une matière à penser, à me confronter. C'est comme
c'est
quand on lit un quotidien d'un autre bord politique que le sien, a priori. L'intérêt, c'est plutôt de réfléchir à quels sont les arguments de l'opposition. Et peut-être qu'on est un peu d'accord.
Publié chez Grasset, ça s'appelle Terreur. Et c'est signé Yann Moix. Lorsqu'on a annoncé la venue de Yann dans cette émission, Leïla, vos oreilles ont sifflé.
Oui, et immédiatement, quand j'ai pensé à vous, Yann Moix, j'ai pensé à une anecdote que vous avez racontée. On remonte dans le temps, nous sommes en 81, et voici ce qui se passe à la télé un certain soir du mois de mai, le 10 mai, pour être plus précise.
Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1.
Ah, c'est Bouchotte.
François Mitterrand est élu président de la République.
Voilà un événement important pour nous tous, puisqu'on l'a plus ou moins tous vécu autour de la télé.
J'étais deux.
Non, toi, t'étais pas encore là.
Moi, j'étais en larmes.
Voilà. C'est un événement aussi qui a un peu semé le trouble au sein de votre famille. François Mitterrand, c'est une figure très importante pour vous, un peu une figure... tutélaire. En tout cas, c'est comme ça que vous le présentez souvent. Il fait partie de votre panthéon, d'ailleurs, publié en 2006.
Oui, c'est une figure importante et c'est toujours difficile pour un adolescent ou un enfant de s'arracher aux idées politiques de ses parents. Et donc pour moi, c'était une occasion en or de le faire parce qu'il était tellement détesté chez moi et je détestais tellement les gens qui étaient chez moi qu'une manière d'exister était de préférer...
De prendre le contre-pied, oui.
Voilà.
Donc c'est pour des mauvaises... de la musique, mais là c'était de la politique.
Mais si j'avais été communiste ou socialiste, j'aurais adoré
Giscard. De la musique, pas communiste. Vous auriez pu choisir une star très provocante. Vous avez choisi la politique.
Oui, parce que comme mes parents pleuraient ce jour-là, mais pas de joie. Du coup, j'ai choisi cette figure comme contre-modèle pour devenir un punk dans ma propre famille, d'une certaine manière.
Et en lisant encore, je suis tombée sur une autre anecdote qui concerne toujours un peu François Mitterrand et qui vous a mené à vous retrouver dans une situation, disons, un peu étonnante. On écoute. Yann Moix, en chasuble rose, a tourné les pages
du missel.
Et c'était lors d'une messe.
Non, c'est pour l'anniversaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est d'ailleurs devenue entre-temps docteur de l'Église. D'ailleurs, j'adore cette histoire parce que vous savez comment on devient docteur de l'Église ? Eh bien, on prend les textes du saint ou de la sainte, parce que c'est après la canonisation, le doctorat, si j'ose dire. Et oui, c'est doctorat. Et on étudie les textes. Et Sainte Thérèse de Lisieux avait publié des petits poèmes, en fait, très sulpiciens, très naïfs. Et c'est ce qui en fait la beauté sur Jésus. Et pendant 30 ans, des gens se sont penchés de manière extrêmement pointue sur le corpus de thérésien. Et elle a été admise docteur de l'Église, je crois, en 97. Et j'ai lu donc les comptes rendus. Et donc on voit les évêques qui disent... Thérèse a passé brillamment ses examens. Et oui. Parce qu'en fait, le pour eux, si vous voulez, pour l'Église catholique, la mort est un cas particulier de la vie. Mmh. C'est un accident de parcours, mais les choses commencent, en fait, avec la mort. Et donc, elle avait passé brillamment ses examens. Et ces histoires de doctorat, de docteur de l'Église, il y a très peu de docteurs de l'Église, sachant que le grand docteur, c'est le Christ, ça m'a toujours fasciné.
Et François Mitterrand était totalement fasciné par Thérèse de Lisieux.
Il y a une anecdote assez touchante sur François Mitterrand. En 1975, il venait donc d'être battu par Giscard en 1974, et il était sur un rebord d'autoroute, vous savez, genre l'Arche, vous savez, les
trucs
sur
l'autoroute. L'autogrill.
Et un journaliste raconte qu'il a vu François Mitterrand dans une sorte de flunch. Toutes les chaises étaient posées sur les tables et il était en train de lire les cahiers de Sainte Thérèse tout seul sur un. Ça m'a touché cette anecdote.
Ouais, c'est la double peine.
Vous avez un point commun en plus avec François Mitterrand. Je pense que vous êtes deux hypermnésiques.
Parfois, il m'arrive de me souvenir de dates, oui, de dates. De moins en moins, parce que tout le monde vieillit, moi y compris, donc j'ai déjà plus la mémoire que j'avais il y a 6 mois. Mais il me reste des petites traces, parfois de dates, oui.
Voici, ça s'appelle Terreur, hein, c'est Yann Moix qui le signe. On va continuer cette bande originale avec notamment quelques dates de votre vie, mais ça sera juste après l'humeur de Frédéric Siglis, messieurs-dames.
Bonjour à tous. Alors, je sais que chaque semaine, l'auditeur fidèle attend fébrilement mes 4 minutes d'analyse sociétale pour aller vider sa vessie pleine comme le casier judiciaire des Balkany. C'est donc avec diligence que je vais, comme chaque semaine, être ce phare de la pensée moderne en vous dispensant mon point de vue sur le monde qui nous entoure, ce qui, en plus d'être devenu un rendez-vous hebdomadaire indispensable, constitue aussi une pause bienvenue où Nagui ne parlera pas. Alors, cette semaine, le fruit de ma réflexion est le suivant. Les campagnes politiques, c'est quand même vachement rigolo. Non, parce qu'on fait genre la présidentielle, c'est sérieux, on lit des articles, on regarde des émissions avec des gens qui se disent experts parce qu'ils ont un nœud papillon et des poils dans les narines. On en parle au café, au boulot, il y a même des gens qui s'engueulent au sujet de la politique. J'ai rencontré des gens prêts à en venir aux mains pour défendre leur candidat. Mais en fait, c'est pas sérieux. C'est du pur divertissement. La présidentielle, c'est le Super Bowl du monde politique. Et les militants, c'est comme un supporter de foot avec un meilleur niveau scolaire. Mais franchement, rien n'est sérieux. Et prenons un peu de recul avec tout ça. Il faut avoir la candeur d'un enfant de 4 ans pour croire au discours d'un mec tout seul sur une scène qui hurle le poing levé ou le doigt tendu. Votez pour moi et je vous promets que vous n'aurez plus jamais une vie de merde. Si, vous aurez toujours une vie de merde, ça va rien changer. Mais c'est pas sérieux du tout. À ce moment-là, autant voter pour Boubacar Konaté, marabout, qui fait revenir l'être aimé, repousser les cheveux et répare les ordinateurs par la prière. C'est pas plus ridicule, arrêtons. Alors je sais que Daniel vous en a déjà parlé un peu hier, mais franchement, dimanche, on a touché le plafond ou le fond du plein. Dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon faisait même un meeting sous la forme d'un hologramme. Un hologramme, comme dans les spectacles des chanteurs morts. Moi j'ai vu ça, je me suis dit Mélenchon il va terminer en chantant l'international en duo avec Dalida. Remarquez maintenant que la technologie a trouvé le moyen de le multiplier, on sait qui va prendre dans son gouvernement. Lui-même. Jean-Luc Mélenchon c'est l'agent Smith dans Matrix maintenant. Au même moment, Emmanuel Macron, lui aussi, était sur scène en chair et en os. Hein, c'est son programme qui était en hologramme. Et oui, Macron, c'est un génie de la stratégie politique. Hein. Il s'est dit, un programme, c'est le risque d'avoir des gens pas d'accord avec. Donc si je veux que tout le monde soit d'accord avec moi, oh, la solution, c'est pas de programme. Youhou, Brigitte, fais péter les chocs à pied que je suis un génie. Emmanuel Macron, qui hier, à la surprise de tous, a démenti des rumeurs disant qu'il était en couple avec Mathieu Gallet, le PDG de Radio France. Ce qui m'a plongé dans une tristesse infinie. Déjà parce que notre cher patron est d'une beauté telle que quiconque qu'on imagine en couple avec devrait être flatté. Hein, c'est Daniel qui me disait encore ce matin à la machine à café « Ah, oh, tu sais Frédéric, j'ai beau être hétéro, Mathieu Gallet est un des rares hommes que je laisserais souffler dans ma nuque. » En plus, si ça avait été vrai, on aurait eu un peu l'impression de travailler pour l'Élysée. Enfin, je veux dire officiellement cette fois-ci. Marine Le Pen, elle, pour relancer l'économie française, elle a dit dans son meeting qu'elle voulait taxer tout ce qui vient de l'étranger. Ce qui va absolument pas poser de problème, car comme chacun le sait, en France, hein, bah, personne ne porte des fringues fabriquées au Bangladesh, on mange tous local, on roule tous en voiture française, et nos ordi ont tous été fabriqués sur le territoire. Et puis enfin, il y a l'affaire François Fillon. Ah, moi j'adore. Ah, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais moi ça fait 15 jours que je suis en érection. Ah ouais, carrément. Non mais il y a plus de rebondissements dans une campagne présidentielle française que dans 3 saisons d'House of Cards. Netflix rêverait d'avoir l'exclusivité des conférences de presse de François Fillon. Hier, il a donné une conférence pour, je cite, « reprendre la main ». Il y a quand même que des politiciens pour imaginer qu'en une conférence de presse, on va oublier 15 jours de révélation. Ils nous font même plus croire qu'il pleut quand ils nous pissent dessus. Pour Fillon, hier, dans sa tête, c'est comme s'il avait appuyé sur CTRL-ALT-SUPRE, il a rebooté la machine, il a dit « Je vais présenter mes excuses, voilà, vous êtes contents, maintenant on passe à autre chose et vous votez pour moi ».
Hier, face au journaliste, tu sentais qu'il était content d'être là. Hein. L'œil humide, la voix tremblotante, le teint livide. On aurait dit un mec qui avait mangé indien, mais qui se souvenait plus qu'il avait la gastro. Il a reconnu tous les faits. L'échec du Sénat, le salaire de sa femme et de ses enfants. Mais tout ça est légal. C'est légal. Quand t'es député, il l'a dit, t'as le droit de faire ça. C'est tout à fait légal de filer 3000 euros par mois d'argent public à ta femme et tes gosses en échange d'une petite rédaction de temps en temps ou d'un collier de pâtes. Hein. Pour un type qui a fait sa campagne sur le fait que les fonctionnaires sont soi-disant payé à rien foutre, c'est cocasse. Rappelez-moi, un institut d'infirmière, ça touche combien en fin de carrière ? Il a juste regretté, voilà, il a conseillé ça, hein, ne s'être pas rendu compte plus tôt que c'était des pratiques que les Français ne toléraient plus. Hein, il n'a pas su voir les évolutions de la société sur le sujet. Et j'ai un peu l'impression que ne pas voir les évolutions de la société sur le sujet, c'est un peu sa marque de fabrique à François Fillon. Sur le mariage pour tous, oh, je n'ai pas su voir l'évolution de la société sur le sujet. Sur le fait qu'une femme, hein, parce qu'on aimerait bien entendre Pénélope aussi, a le droit de s'exprimer sans l'autorisation de son mari. Ah, oh, je n'ai pas su voir l'évolution de la société sur le sujet. Eh bien, moi, je propose que tes pseudo-remords à deux balles, François. On ne puisse pas voir ton évolution sur le sujet.
Merci, Frédéric.
La bande originale de Yann Moix, notre invité qui signe chez Grasset et Terreur. On va prendre comme date 1994, où vous écoutiez les Rolling Stones. Enfin, vous êtes très rock dans vos références.
Ah, j'aime bien le rock.
Le rock des Rolling Stones, vous faites une allusion au punk également dans Terreur, en disant qu'il y avait un côté No Future mais qui n'engageait qu'eux, finalement contrairement aux terroristes. Allusion également aux paroles soi-disant sataniques quand on écoutait à l'envers Led Zepp. Vos références sont très musicales.
C'est surtout aussi que j'ai essayé de trouver un exemple pour dire que c'est pas parce on se demande toujours est-ce que ça a un rapport avec l'islam, et je dis est-ce que le fait d'écouter un disque de Led Zeppelin à l'envers et trouver des messages sataniques a un rapport avec Led Zeppelin? Oui, parce que s'il n'y avait pas Led Zeppelin, on pourrait pas écouter leur disque à l'envers. Et non, parce qu'on n'est pas obligé d'écouter Led Zeppelin à l'envers. Ça me paraissait un exemple pour essayer de prouver à quel point le Coran peut lui faire dire tout et son contraire.
Et donc, pour en revenir aux Rolling Stones, vous écoutiez les Stones en 94, lorsque vous étiez à l'Express, lorsque vous rencontrez BHL. Ça fait d'écouter cette musique, ça vous replonge dans cette période-là ou pas?
En fait, j'ai toujours écouté les Stones, mais il y a des périodes où on réécoute plus souvent, encore plus qu'on écoute depuis toujours. On ne sait pas pourquoi. C'est sans doute. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'écouterai toute ma vie ce que j'écoutais quand j'étais adolescent. C'est très étrange. Alors, comme j'écoutais beaucoup de choses dans beaucoup de genres, c'est pas grave, mais. Ce qui m'agace chez moi.
Par exemple, quelle était votre madeleine musicale lorsque vous étiez enfant? C'est quoi?
Oh, j'écoutais beaucoup Frank Zappa et les Who et Thelonious Monk.
Genre Joe's Garage ou
Joe's Garage, ouais, par exemple. D'accord. Entre autres.
Enfin, c'est-à-dire qu'on découvre plus ensuite de musique. En
parfois,
gros,
ce qui m'agace chez moi, c'est que entre découvrir quelque, j'adore, j'ai une curiosité intacte, mais entre découvrir quelque chose et réécouter quelque chose que j'aime, parfois. La pièce tombe du côté ce que j'ai écouté.
Ça n'a pas pris une ride.
Ça marche en littérature aussi, ça?
Non, ça marche essentiellement en musique, quand même. Ouais.
La rencontre avec BHL, parce que le stage à l'Express, lui, il n'a pas été formidable. Vous l'avez écrit dans Panthéon. Mais cette rencontre, vous lui écrivez, en fait, pour remettre un manuscrit.
Oui. En fait, j'étais au culot chez Grasset. J'étais à Sciences Po à l'époque. Et je lui ai demandé un rendez-vous. C'était assez difficile à obtenir. Et puis, il est venu au rendez-vous. Il m'a dit, écoutez, je ne vous connais pas. Pour ce soir.
Au Flore, hein, c'est ça?
Au Flore. Bernard Arrivé, en général, donne ses rendez-vous au Flore.
C'est lui qui a choisi, c'est pas vous?
Ah bah non, même encore maintenant, j'ai du mal à rentrer au Flore. Je me sens un imposteur. Je sais pas, j'ai un côté provincial qui fait que rentrer au Flore, c'est toujours pas naturel. C'est bizarre, hein, je me
pour
sens
personne,
pas bien.
Hein. Pour
non,
personne.
Mais il y a un petit. C'est comme quand j'allais en maths sur l'estrade. Je me sens pas à l'aise au Flore.
Non, mais une fois, demandé à Nagui, il l'a racheté la semaine dernière.
non, mais c'est bizarre parce que j'ai jamais osé le dire, mais je n'y suis allé que deux fois dans ma vie et il y a un sentiment oppressant de ne pas avoir droit d'être là.
Exactement.
Quoi.
Ça dépend à quelle heure tu y vas et avec quel degré d'ébriété.
Tu essuies des regards.
Ah oui,
où
t'as pas
la carte. C'est, quoi. C'est genre, qu'est-ce qui s'y fait là? T'as pas la carte.
Alors c'est peut-être une illusion parce qu'en fait, il y a que des étrangers, essentiellement, et des Chinois et tout ça, mais j'ai pas l'impression que j'ai le droit de rentrer.
C'est des grands auteurs dans leur pays aussi.
Et puis, donc, il m'a donné 3-4 textes à faire pour le soir même, comme un concours.
Un test, ouais.
Voilà, et je les ai écrits et donc il m'a publié dans sa revue. La règle du jeu.
Et quand vous le revoyez encore aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier entre vous ou...
C'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Une reconnaissance ?
C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il en a pris, il en prend souvent plein la gueule, Bernard.
Dans tous les sens du terme.
Oui. Il a une qualité. Alors, je ne doute pas qu'il ait des défauts comme tout le monde, mais il a une qualité qui est très importante, c'est sa fidélité. Il n'abandonne jamais ses amis. Donc je fais partie de ses amis depuis 1993-14, et c'est vrai qu'on peut toujours compter sur lui, même si je ne lui demande jamais rien. Je sais qu'il est là, c'est bizarre, mais c'est une sorte de parrain. Et je ne crache jamais sur les gens qui m'ont tendu la main quand j'ai débuté. C'est quelque chose de sacré pour
moi. Et vous êtes fidèle aussi, vous êtes toujours chez Grasset, vous n'avez jamais bougé.
Toujours.
En 1996, justement, vous réécoutiez du Zappa. On pourrait traduire par « Pourquoi ça fait mal quand je fais pipi ?»
En fait, c'est dans Joe's Garage, ça, de 1979. Ouais. C'est Ike Willis qui chante et c'est une chanson sur les groupies. Vous voyez ce que je veux dire ?
Non, expliquez, moi j'ai pas compris.
Le narrateur, c'est-à-dire que Joe's Garage décrit une société dans laquelle les groupes de rock sont interdits. Et donc ils essayent de faire la révolution et de réinstaurer le rock dans la société avec tout ce qui va avec, y compris les concerts. Et qui dit concert dit groupie, qui dit groupie, en tout cas en 1979, dit show de pisse, on était avant le sida. Et donc pourquoi est-ce que ça fait mal quand je pisse ? Mais Zappa a toujours été une sorte de poète en la matière. Et d'ailleurs, vous savez qu'en 1985, il y a une commission, d'ailleurs il y a un disque qui s'appelle The Mother of Prevention, un disque entier sur le procès de Zappa, que lui avait fait Al Gore à l'époque, qui était sénateur, pour interdire l'intégralité de ses disques ou les classer X. C'est donc le premier chanteur avant les rappeurs dont les paroles étaient classées X, c'était l'intégrale de l'œuvre de Zappa.
À ce moment-là, en 96, vous publiez votre premier roman, Jubilation vers le ciel. Vous recevez le prix Goncourt du premier roman, le prix François Mauriac de l'Académie française, le prix des lycéens de la ville de Bordeaux. Tout cela arrivant d'un coup, on se dit c'est normal, on a la tête qui tourne, on a peur de la suite parce que quand on a autant de bienveillance d'un coup, on se dit je ne vais jamais avoir... la possibilité de reproduire ça dans les prochains, pour les prochains
J'ai livres. Considéré que c'est tout à fait normal d'avoir tout ça. Non mais vous savez pourquoi c'est une réponse humble ? Parce que j'ai beaucoup travaillé, depuis l'âge de 8 ans je voulais publier des livres et donc j'ai pas vu le moment où c'était une sorte de réussite. J'ai vu le moment où ça entérinait quelque chose que je pensais mériter 15 ans plus tôt quand je faisais que des cahiers de brouillon.
Tout ne vous a pas souri dans votre vie et dans votre éducation. Vos parents étaient là pour la remise de ce prix. Vous avez largement, et on va pas revenir là-dessus, expliqué l'éducation violente que vous avez reçue. Tout n'a pas été simple. Donc il y a aussi un moment où vous pouvez aussi respirer, vous détendre en profitant de ces prix sans dire c'est la suite logique des choses. C'était pas vraiment écrit comme ça.
Alors, pour répondre à votre question, autant quand j'ai fait Podium, film, ça m'a semblé beaucoup plus surnaturel parce que j'avais jamais prévu vraiment de faire du cinéma et donc là j'avais vécu ça comme quelque chose d'exceptionnel, mais pour la littérature je vous assure que c'est comme si enfin quelqu'un reconnaissait quelque chose qui chez moi est tout à fait naturel, c'est-à-dire d'écrire. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas vécu ça comme un sacre, mais vraiment comme un adoubement.
Je pourrais le comprendre sur une publication d'un roman en disant c'est je dis pas c'est anormal, c'est génial. Je trouve ça normal d'être publié parce que c'est mon métier, c'est mon savoir-faire, c'est une chose. La reconnaissance des prix de ses pairs, c'est pas toujours évident.
Vous par exemple, je suis sûr que si vous recevez le prix du meilleur animateur télévision ou radio, vous ne vivrez pas ça comme quelque chose de totalement exceptionnel parce que ça vient entériner quelque chose que vous savez très bien faire. Par contre, si demain, par exemple...
Ah non, je suis pas d'accord. Toujours
vous avez eu des sept ans, d'ailleurs.
Non, par exemple, si vous avez une passion parallèle, je sais pas ce que ça peut être, vous avez forcément des passions, je sais pas, sportives, artistiques. Par exemple, si vous demain, faites de la photographie, vous écrivez une pièce de théâtre ou vous faites de la Formule 1 et que vous recevez un prix dans quelque chose qui n'est pas exactement ce pour quoi vous avez...
Ça sera plus gratifiant, en fait.
Oui, d'une certaine manière, c'est...
Moins surprenant.
Ouais, parce que vous faites un écart dans une autre spécialité, une autre catégorie.
En 2000, c'est votre troisième livre, mais vous écoutez à ce moment-là du Miles Davis. La musique a un rôle aussi dans votre travail, c'est-à-dire vous écoutez de la musique lorsque vous écrivez, lorsque vous êtes toujours sur votre clavier.
Toujours.
Vous écrivez d'ailleurs à la main ou sur un clavier?
En fait, j'écris en nageant et en marchant. J'apprends par cœur les phrases et ensuite je les recopie le soir.
En nageant et en marchant?
Oui, j'écris et j'apprends par cœur.
C'est votre côté BHL en nageant. Il fait ça aussi, BHL. Il nage et il enregistre. Et à chaque bout de bassin, il y a un enregistreur et il dit ses phrases.
Ah non, moi j'enregistre pas.
Tu délires.
BHL, si.
Mais
il nous l'avait raconté à ce micro. Il fait 25 mètres, il s'arrête. S'il a une phrase, il la balance. Il a un poste radio cassette, il enregistre. Il repart.
C'est ce que vous faites avec la coke, Nagui.
Vous savez.
J'ai pas compris.
En même temps, je me lève le matin, Bernard Henri aussi. Je me couche le soir, Bernard Henri aussi. Il m'arrive de déjeuner comme Bernard Henri Lévy.
Non, bah, pardon, mais je suis pas en train de dire que, d'accord, non, vous allez aux commodités comme aux latrines comme Bernard Henri Lévy.
Non, mais ce qui est surprenant,
c'est pas la même méthode, c'est rare quand même.
Nager, retenir une phrase pour l'écrire après, c'est surprenant.
Là, je suis en train d'écrire mon prochain livre. J'en ai écrit hier 15 phrases à la piscine des Halles en nageant, par exemple.
Vous en êtes à combien de kilomètres de votre livre?
Voilà. 20 kilomètres à peu près.
Très bien.
Le premier chapitre.
Donc il n'y a pas de musique, c'est ça, dans votre travail? La musique n'est pas présente?
Et ensuite, chez moi, quand je recopie tout ça, si j'ose dire, j'écoute de la musique.
Est-ce que c'est Grasset qui découvre les vertus du marketing et du jeu de mots « appelez-moi X » quand vous donnez votre numéro de téléphone, ou c'est vous qui allez au point extrême de la vanne en faisant ça?
À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas.
Et c'était votre vrai numéro?
Voilà, c'est vraiment mon numéro. Donc comme je n'avais pas accès, personne, au site de rencontre, j'en ai créé un tout seul en mettant mon numéro de portable en publicité dans les magazines et les revues. La vraie raison était de rencontrer des filles à l'époque.
Et ça a marché?
Oui, ça a marché, mais comme j'étais très bête...
Il y a eu des déceptions?
Non, mais c'est pas ça le problème, c'est que j'ai reçu des milliers de SMS, parce que Ardisson l'avait redonné à la télévision, mais à l'époque je savais pas que les SMS ça existait, donc j'ai dû rater plein de trucs, parce que je voyais bien que ça... J'avais un portable et je voyais bien qu'il y avait plein de trucs, des bruits bizarres. Et en fait, j'avais des milliers de SMS que j'ai découvert très longtemps après. Donc, j'ai pas pu en profiter.
Ah, c'est ballot. Vous réalisez votre court-métrage aussi, Grand Oral, avec Julie Depardieu. C'est les premiers pas, là, avec la caméra. Je vais pas tant revenir sur le passé que de m'intéresser à l'avenir, plutôt. Vous et la caméra, j'allais dire quel est votre objectif, mais quelles sont vos intentions?
Ouais, je termine un très bon film sur la Corée, du Sud et Corée du Nord. Je suis parti tout seul avec ma caméra pendant des mois dans les deux Corées.
Ça va être très long, je crois, c'est un gros film.
Oui, ça va durer très longtemps. Mais c'est simplement parce que j'ai eu un échec cuisant avec Cinéman en 2009 et ça m'a fait réagir et je me suis dit que...
Vous avez eu un succès avec Podium aussi,
oui,
vous
bien sûr.
Ne retenir que les échecs.
Non, bien sûr,
on apprend des échecs.
C'était très dur parce que je ne sais pas ce que j'ai fait en faisant un bide avec un film, mais quand vous faites un bide avec un film, et Patrice Lecomte le dit, c'est que quand vous sortez dans la rue le lendemain, vous avez l'impression que vous êtes moins que rien. Et comme j'habitais près de la Fémis à l'époque, je vous assure que je me suis fait siffler par des étudiants de la Fémis dans un restaurant la semaine qui a suivi le... Non mais c'était très violent, j'avais l'impression d'avoir violé un enfant.
Et c'est parce que vous avez fait un succès avant, c'est pour ça.
Oui, mais c'était d'une violence disproportionnée. Et
donc... Il y a plein de cinéastes qui ont déjà eu et du succès et des erreurs et qui ont... continuer sans douter.
Mais quand vous lisez par exemple dans la presse que c'est le pire film jamais réalisé, que c'est une insulte au cinéma...
Au moins vous marquez l'histoire.
Non mais il y avait un racisme de classe aussi parce que dedans par exemple...
Vous n'avez pas la carte quoi.
Non mais c'est pas ça, c'était aussi dirigé contre Franck Dubosc, qui est un être humain formidable, et dedans il y avait par exemple un hommage à Murnau, un cinéaste des années 30, 20 et 30. Et donc à un moment donné, je filme Dubosc à la Murnau. Eh bien, il y a une fille dans Télérama, qui a écrit « Franck Dubosc n'a rien à faire dans un Murnau ». Ça voulait dire qu'il retourne au camping, ce plouc. Et j'ai trouvé ça, mais dégueulasse, en fait.
Ouais, mais c'est Télérama,
bien
ça
bien
va,
sûr, bien
fout.
Sûr.
On s'en fout.
C'est vrai. Et donc, après, j'ai décidé de partir tout seul, avec une petite caméra, sans personne. Et là, j'ai eu l'impression de me nettoyer d'une certaine manière.
Et du coup, quand vous faites vos critiques, par exemple, chez Laurent Ruquier, toutes ces expériences vous ont rendu un peu plus humaine et vous faites attention aux mots que vous employez?
Non.
Terreur, Yann Moix le signe chez Grasset. Justement, l'histoire du terrorisme est publiée chez Perrin par Gilles Ferragu. Merci Gilles de venir à ce micro. Vous êtes agrégé d'histoire, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, également à Sciences Po Paris. Cette histoire du terrorisme, vous l'avez publiée en 2014.
2014.
Donc c'est pas une forme d'opportunisme.
Pas du tout.
Vous aviez travaillé dessus. Est-ce que vous avez une définition du terrorisme? Parce que c'est vrai que, comme de tous les mots en isme, c'est faire de la terreur, parce que l'étymologie c'est ça, c'est terreur et rajouter isme derrière.
Exactement, c'est faire trembler, c'est fixer la victime, l'empêcher de réagir, donc c'est ça le but du terrorisme. L'idée, le problème, c'est que le terroriste, pour la victime, l'autre est un terroriste, ouais. Mais le terroriste se définit pas du tout comme un terroriste. C'est défini comme un libérateur, comme un résistant, comme un révolutionnaire. Ouais. Et donc, voilà, il n'y a pas de définition objective. Il y a une définition, par contre, subjective. C'est une arme. C'est une arme rhétorique. Ça consiste à définir l'adversaire comme un terroriste, lui enlever toute sa légitimité.
D'autant plus qu'historiquement, les actes dits terroristes peuvent être aussi des actes pour reconquérir une forme de liberté, de légitimité. Donc, c'est pas un terme qui est
mais
en train.
Ça commençait quand à la Révolution française.
C'est assez ambivalent comme terme.
Voilà, c'est ça. Je vais répondre aux deux en même temps. Ça commence à la Révolution française, mais le premier à l'employer, c'est Napoléon. On est à la Noël 1800, il va à l'opéra, il traverse une petite rue toute tarabiscotée qui s'appelle la rue Saint-Nicaise. Là, il est la victime, enfin, il est la cible du premier attentat à la charrette piégée. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y a celui-là. Il est la cible d'un attentat à la charrette piégée. Il y échappe parce que, là aussi, n'écoutez pas, mais le cocher avait un peu bu et allait trop vite. Donc voilà, faut boire de temps en temps pour échapper au terrorisme. Et il sort de son carrosse, il regarde ce qui se passe et il dit « Les gens qui ont fait ça, ce sont des terroristes. Sous-entendu, ce sont des républicains qui veulent m'empêcher de continuer mon accession vers le pouvoir. » Il se trouve que c'était pas des républicains, c'était des monarchistes, mais le mot « terroriste » à ce moment-là reste.
Donc ça vient de la Révolution française, en fait, de la terreur.
Voilà, et la France va avoir une histoire de 2 siècles, rythmée à peu près, allez, tous les 10 ans, avec des attentats. Il n'y a pas un homme politique, enfin, il n'y a pas un souverain ou un chef d'État durant tout le 19e qui n'a pas été la cible d'un attentat.
Sachant que l'attentat contre Napoléon était, c'est une fillette qui a explosé, exactement les méthodes qu'emploie Al-Qaïda, Al-Nusra ou Daesh aujourd'hui. Une fillette qui explose.
Qui s'est sacrifiée.
Qui tient la charrette et qui guide les chevaux.
En tout cas, c'était un terrorisme là pour reconquérir encore une forme de. Pour le pouvoir, quoi, tout simplement.
Voilà, tout à fait. Ben là, entre guillemets, c'est des monarchistes qui veulent remettre le roi sur le trône.
Le terroriste ou le terrorisme, en tout cas, c'est un acte politique qui a des fins, qui a une idée, qui a un cheminement, qui a une idéologie ou qui peut être simplement pour le plaisir de la terreur, justement, et faire peur.
Alors, c'est tout le problème. C'est que théoriquement, oui, il y a une idéologie, il y a un but, il y a un moyen, il y a un but, il y a une stratégie, il y a une tactique. Mais après, vous avez aussi des gens qui font ça, qui sont soit des idéologues, et ceux-là, à mon avis, on ne les voit pas sur le terrain, on ne les voit plus, soit, entre guillemets,
ça, c'est
des couteaux.
Les manipulateurs,
tout
les idéologues.
Ouais. Ceux-là sont de vrais terroristes, les autres sont, entre guillemets, c'est des...
Les exécutants.
C'est des exécutants, et on a eu le cas, notamment
des pantins et des marionnettes manipulés par des idéologues qui, eux, se planquent.
Exactement, très largement, je pense.
Et on a eu ce cas en France, oui, continuez, pardon.
Ah bah moi, je pense qu'une grande partie des attentats djihadistes,
là où on parle des récents
ouais. Tout à fait, sont faits par des gens, voilà, c'est des petits voyous, c'est des petites frappes, ont été très largement manipulés. Ils n'ont pas une grande épaisseur idéologique, je suis sûr qu'ils seraient incapables de justifier très largement leur attentat. Par contre, voilà, c'est des gens qui sont, à mon avis, plus simplement engagés dans une espèce de alors nihilisme, rienisme, on peut utiliser les différents termes, et qui trouvent dans la violence...
Ça sera toujours un terme en isme, en tout cas.
Tout à fait, parce que ça marche mieux, puis c'est plus joli.
Et la terreur, elle est associée à plein de courants spirituels. Donc oui. Là, en ce moment, c'est l'islam. En tout cas, c'est de l'islam dont ces personnes se revendiquent. Il y a eu une alternance travers...
Grosso modo, le problème, c'est qu'on peut tuer à peu près pour n'importe quelle raison du moment qu'elle est sacrée. Ouais. Vous pouvez tuer pour la patrie, vous pouvez tuer pour le peuple, vous pouvez tuer pour la liberté, vous pouvez tuer pour, je sais pas moi, la monarchie, la religion, etc. Du moment qu'il y a quelque chose de sacré qui vous donne à la fois plein de légitimité et qui vous enlève toute responsabilité, hein, c'est pas moi, je le fais pour une cause qui me dépasse, je vais tuer. Et ça, le terrorisme l'offre à tous les gens qui sont prêts à mourir de manière bizarre.
Est-ce qu'on peut évoquer ensemble ce que Boris Cyrulnik avait soulevé à ce micro lorsqu'on avait parlé des terroristes et de leurs plans médias, c'est-à-dire des chaînes d'information qui, en boucle, passent des images ou montrent les photos de ces terroristes. Est-ce que c'est un aboutissement pour eux que de, entre guillemets, passer à la télévision, être montré comme étant le responsable de tel ou tel attentat, et de mettre ces images en boucle qui vont ne faire que grossir encore une fois la terreur, ou la faire résonner en tout cas sur une période encore plus longue.
En fait, il faut distinguer dans le terrorisme,
pour
l'attentat...
Pour parler au bout de l'idée, Boris Cyrulnik disait il ne faut pas les montrer.
Oui,
il faut pas qu'on en parle, c'est une chose, mais mettre en boucle des images de voitures de police en feu ou des attentats du Bataclan est une erreur. Il faudrait plutôt montrer les héros que les terroristes.
En fait, il faut distinguer surtout cible et victime. La victime, c'est celui qui reste par terre. La cible, c'est vous, moi, c'est toute l'opinion publique. Et le terroriste, s'il n'atteint pas sa cible, via notamment les médias, bah, l'attentat, il n'a pas fonctionné, entre guillemets. Au 19e, lorsqu'il y avait des attentats terroristes, qu'il n'y avait pas ni Facebook, ni la télévision, ni la radio, le seul moyen de faire du buzz, entre guillemets, c'était de se faire arrêter. Mm-hmm. Et après, lors du jugement, de faire toute la publicité possible sur l'attentat, de le justifier comme ça. Maintenant, il n'y a plus besoin. Il suffit de mettre des vidéos, des choses comme ça, et...
Ça, là, c'est un angle que vous n'avez pas beaucoup évoqué dans votre roman, enfin dans vos essais.
Si j'en parle. Je dis notamment.
Non, mais de l'importance et de la responsabilité des chaînes info.
Non, alors j'en parle un tout petit peu. Si vous voulez, il y a quelque chose qui m'avait frappé dès le 11 septembre 2001, c'est que si pour un même attentat, on vous dit vous êtes à la campagne, vous n'avez pas la télévision, tiens, les Twin Towers viennent d'être abattus, ce n'est pas la même réalité que celui qui est dans LCI toute la journée et qui le voit 250 fois dans la journée. Ce n'est pas le même événement. Donc on modifie la nature même de l'événement en le passant en boucle, c'est évident, en le photocopiant à l'infini.
Qu'est-ce qui a changé dans ce que l'on vit maintenant, Gilles Ferragut, sur cette menace terroriste que l'on a quand on est des victimes en sursis, en ne sachant pas si on sera martyr ou pas, nous-mêmes, à ce micro, voilà, il peut y avoir une... on est rien, il peut y avoir une bombe dans ce studio, bing, on devient un martyr, victime du terrorisme.
Je crois que
c'est une appréhension totalement différente de ce que l'on a pu vivre dans les années précédentes des brigades rouges en Italie, où on savait qu'il y avait des cibles bien précises qui étaient plus politiques ou capitalistiques que de frapper l'innocence.
Bah, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part l'ampleur des médias désormais qui font que même si on n'est pas là à la cible, il n'y a pas de bombe, j'espère, dans le studio. Par contre, on sait que...
Il y a Laïla qui est...
J'en étais sûr, je me suis dit, il ne va pas la faire. Bien joué. Mais la
ça fait longtemps qu'elle a été déminée. Hein.
Dégoupillée, tu veux dire. Non.
Voilà. Elle a la mèche qui pend.
Et sinon, ça va, là, tranquille ouais.
Non, pardon, oui.
C'est troublant quand même.
Je
reprends.
Je suis chaud.
Non, l'idée, c'est qu'effectivement, on vit dans un monde où, quand bien même on échapperait à un attentat, où l'attentat se trouve à 10 mètres, la répercussion via les différents médias, notamment les médias sociaux, est telle qu'on se sent constamment visé. Je pense qu'il y a 20 ans, même si, par exemple, que ce soit en Italie ou même en France, hein, à peu près tous les 10 ans, il y a des attentats en France, il n'y avait pas une telle pression qui pesait sur les individus du simple fait que vous ouvrez votre téléphone, vous regardez votre télé, etc. Vous avez les nouvelles d'un attentat.
Même si on ne veut pas voir, oui.
Ouais. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on voit quand même émerger ce fameux terrorisme domestique qui fait qu'un type, au fin fond de son garage, sans prévenir personne, après s'être connecté pendant 3 semaines avec une centrale qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici, est capable de sortir et de faire un carton avec un camion. Et ça, jusque-là, on n'avait quand même pas trop connu ici. Ça, c'est une réalité qui a existé dans des tas d'endroits. Mais
Donc vous rejoignez Yann Marx en disant c'est une guerre sans fin contre ce genre de guerre.
C'est une guerre sans fin.
Justement, je voudrais savoir si justement le terrorisme tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, c'est pas une sorte d'avatar pervers de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a plein de territoires dans lesquels il y a énormément d'attentats tous les jours. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce phénomène de mondialisation on exporte ce qu'on vit tous les jours dans des pays où vous avez moins l'habitude.
Brièvement, Gilles.
On a réussi à repousser la guerre à partir de la création de l'Europe et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais la violence, on ne peut pas la repousser. Et c'est ce que vous dites, la violence qu'on impose ailleurs, à un bout d'un moment, elle nous revient en retour.
L'histoire du terrorisme, c'est brillant, c'est intelligent, c'est signé Gilles Ferragut, c'est publié chez Perrin. Merci d'être venu apporter votre connaissance à ce sujet. Yann Moix signe chez Grasset Terreur. Justement, on voit, Daniel, que le terrorisme existe depuis longtemps, comme l'a rappelé Gilles, même si c'était sous d'autres formes. Ça fait froid dans le dos quand même. On a peur que tout s'arrête comme ça, et puis ça va pas s'arrêter.
Arrêtez, stop. Vous allez me faire chialer d'admiration.
C'est sans fin.
Comment tant d'intelligence peut venir d'un aussi petit corps et d'un cerveau aussi minuscule? Waouh! Même si aujourd'hui la grandeur de votre pensée est à peu près de la taille de l'avant-bras de Mimimati. Alors, oui, c'est vrai, le terrorisme a toujours existé, mais non, il n'existera plus demain, car je peux vous l'annoncer, le futur sera gentil.
Ah bon?
Oui, je le sens, monsieur Guy, tout le monde sera paix, amour et solidarité. Oui, nous nous retrouverons et nous retrouverons les joies du Flower Power. Pantalon pas de dev, chemise en lin, aisselle velue et pieds qui puent. Oui, la culture et la consommation du cannabis seront autorisées et tout le monde fumera le pet de la joie et la pipe de la camaraderie. Les tyrans, les dictateurs, les chroniqueurs méchants, les attachés de presse, les douaniers, les djihadistes, les élus de Levallois-Perret, les animateurs télé, tous auront la banane et riront bêtement comme des ados idiots devant Cyril Hanouna. Oui, plus personne ne se serrera la main mais fera l'amour pour montrer à l'autre le bonheur procuré par la rencontre. Fini la bise entre nous, monsieur Guy. Très bientôt, quand nous nous croiserons dans les couloirs, ça va galocher sévère. Et puis une chose, en entraînant une autre, nous nous retrouverons nus sur la moquette pour célébrer physiquement les joies des retrouvailles. Plus de guerre, plus de mesquinerie, plus de trahison, plus de l'amour et des antibiotiques. Mais ça, forcément, ça ne vous parle pas, monsieur Guy. Non, non, vous, l'éternel soldat conquérant, toujours le regard dressé, le canon tendu, à l'affût de votre prochaine victime, aussi bien romantique que professionnelle. Oui, vous, le cœur de pierre qui bat sous une chemise en côte de maille. Oui, vous, le sarrasin qui s'habille en templier. Oh, mais comme le disait si justement Damien Sargue...
Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.
T'as raison, Damien. Alors oui, l'amour vaincra et le terrorisme sera terrassé. C'est comme quoi, une fois encore, monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi !
Merci, Daniel Roy. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Gadon-Boudali.
Bonjour à tous.
Fred Sigrid.
Bonjour.
Tom Villard.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour, Daniel.
Charles-Arnac de Montpellier. Et notre invité, monsieur Yann Moix. Terreur chez Grasset, ce livre, vous l'avez, cet essai du moins, vous l'avez porté pendant des mois, voire des années, hein, si on en revient aux premiers attentats de la Twin Tower. Vous avez en permanence ce sentiment dont vous parlez, de sursis, à quand le prochain attentat où,
D'abord, chaque attentat est un teaser de l'attentat à venir. On parlait jadis de propagande par le fait, c'est-à-dire que l'attentat est à lui-même sa propre publicité. Il est la publicité de tous les attentats ayant eu lieu et tous les attentats qui auront lieu. C'est une bande-annonce en même temps. Et vous avez bien vu qu'à chaque fois qu'on oublie un peu un attentat, que la peur et la terreur s'émoussent, il y a un rappel de vaccin qui vient réitérer l'effroi.
Quand j'ai retrouvé l'aphorisme sur l'instruction, parce que vraiment pour moi il est c'est le climax de votre essai. Le terrorisme est tout ce qui pourrait l'instruire. Il fuit l'instruction au profit des instructions. Est-ce que le point névralgique est l'éducation et le fameux vivre ensemble qui est un tout petit peu
galvaudé.
Récupéré, galvaudé, pris à toutes les sauces, mais qui est quand même le vrai problème.
D'abord, la culture, c'est l'art de la nuance, et qui dit nuance dit la non-obéissance mécanique aux choses. La culture, ça sert à ne pas obéir à n'importe quoi, en fait. Ça ne sert qu'à ça. S'obéir à soi-même quand on pense que le chef dit n'importe quoi, et obéir à celui qu'il faut au moment où il le faut. C'est ça, la culture. Si elle devait être utile, ce serait en particulier à cela. Et donc, les crétins dont on parlait tout à l'heure, alors il y a différentes sortes de crétinisme.
Oui,
il y a
les crétins même de pornographes aussi par moment.
Il y a les crétins, oui. Ouais. Les crétins intelligents, comme Mera ou les frères Kouachi, qui vont assez loin dans la théologie et dans une lecture très spéciale et peut-être frelatée de l'islam, mais qui sont quand même dans un cheminement plus intellectuel avec des guillemets, mais peut-être plus profond, et qui sont les marionnettes de Daesh, qui sait très bien ce qu'il fait, et qui est un système politique qui utilise la théologie pour parvenir à ses fins. Et il y a les crétins que j'appellerais de bas étage, comme Koulibaly, sachant que je ne fais pas vraiment de hiérarchie quand l'horreur fait les mêmes dégâts partout. Crétins comme Koulibaly, qui lui veut simplement être photographié sur les réseaux sociaux en warrior.
Vous dites que le mot terrorisme lui-même ne doit pas être galvaudé quand Julien Coupa est accusé d'être un terroriste pour ses actes contre le TGV. Oui. La ligne blanche est franchie, quoi.
Il faut effectivement faire attention au vocabulaire.
Il n'a tué personne.
Quand vous voyez dans Le Monde, quelques semaines après les attentats, que Julien Coupa va subir un procès pour terrorisme, parce que il a voulu faire, soi-disant, tel ou tel, faire dérailler un train, ou je ne sais quoi, ou même pas.
Ce qui peut provoquer...
Ça n'a rien provoqué du tout. Ouais. Et alors, il faut être très attentif au mot de terrorisme. Parce que dans la société actuelle, j'ai l'impression qu'on appelle terroriste un attentat dans lequel le mot Allahu Akbar est prononcé à la fin. On peut changer de définition, mais Rich Richard Durne, lorsqu'il a fait sa tuerie ou son carnage en 2002 contre le conseil municipal de Nanterre, comme il n'a pas dit à la Ouakbar, eh bien, c'est une tuerie. Le même attentat, pour
alors
les mêmes raisons.
Alors qu'il voulait s'en prendre aux notables de Nanterre.
Oui, mais c'était... quand on lit le journal intime et les notes qu'il a laissées, c'est « Je suis une merde, je suis un pauvre type, personne ne m'aime, je suis un raté, je n'arrive à rien », chose qu'aurait pu écrire à la virgule près la Ouaïch Boulel, le type qui a fait l'attentat de Nice.
Et même tous les terroristes.
Peut-être pas tous, mais beaucoup.
Enfin, Breivik l'aurait pas écrit
alors,
comme ça.
Breivik, c'est un attentat. Mais comme c'est fait par quelqu'un de blanc et peut-être de catholique intégriste, eh bien, la notion d'attentat et de terrorisme n'est pas utilisée. Il y a quelqu'un qui était très fort, c'est Trudeau, le premier ministre canadien, qui a essayé quelque chose. Il a fait un test presque de chimie pure. Il a essayé de mettre le mot terroriste et attentat terroriste sur un attentat commis par un blanc envers l'islam. Et c'est très intéressant parce qu'il va peut-être essayer de neutraliser ainsi, de court-circuiter le fait que le terrorisme est allié systématiquement, en ce moment, à l'islam. Mais c'est peut-être une mauvaise chose aussi. Peut-être que si on veut bien penser les choses, de manière provisoire, il faut peut-être réserver le mot attentat terroriste aujourd'hui à ce que fait Daesh. C'est possible aussi, il faudrait réfléchir.
D'autant que la mosquée à Québec, pour le coup, l'homme qui a perpétré cet attentat, enfin moi je l'appelle comme ça pour le coup, se revendiquait, lui, d'idéologie politique. Et c'est là où tout d'un coup il y a un pont qui n'est pas inintéressant, puisque le politique se présente souvent, vous dites il faut ne pas obéir au chef, se présente comme l'homme providentiel, celui qui fait une profession de foi, enfin il y a tout un réseau de signes, de termes.
Mais
même
pour moi
qui
un attentat est toujours politique. Ouais. Un attentat religieux, ça n'existe pas.
Ouais.
Parce que la religion, c'est une parole. La Bible, le Coran, personne ne... Si vous voulez, aucune parole ne commande de tuer. Par contre, un discours, et un discours, c'est toujours politique, un discours sur cette parole, oui, il y a une phrase de Renan que j'adore, c'est « Un discours sacré sur un texte sacré, c'est quelque chose de sot. » Eh bien oui,
Elle est écrite dans vos essais.
Qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? C'est la mise en discours d'une parole. Et dès qu'il y a discours, il y a radicalisation. Parce qu'un discours peut être radical, mais une parole, c'est-à-dire une parole sacrée, la Bible, le Talmud, le Coran ou un roman, ça peut jamais être radical. Ça peut être fou, mais pas radical.
Est-ce que vous avez douté avant de sortir ce livre, et est-ce que vous avez reçu des menaces depuis ?
Des menaces ?
Je sais pas, des lettres anonymes du genre.
D'abord, les terroristes ne lisent pas, ou peu, enfin, en tout cas, pas
sur peut-être sous-estimer le terroriste.
Non, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sentent concernés, qui s'accaparent des choses.
Qui lisent sur Internet. Non, mais non, j'ai pas reçu de menace pour l'instant. C'est pas forcément bon signe d'ailleurs, parce que tant qu'on reçoit des menaces, finalement, c'est assez rassurant. Les gens qui menacent, en général, ne mettent que très rarement à l'exécution.
Ouais.
Vous allez me porter la poisse, vous, avec vos connaissances.
C'est vous qui cherchez à être publié. C'est chez Grasset, ça s'appelle Terreur, et on peut s'y retrouver déjà avec cette notion de que peut-il nous arriver dans les jours qui viennent, comme comprendre et réfléchir par le prisme de Yann Moix et de ses aphorismes, encore une fois, qui ne sont pas que dans les faits ou dans le jeu de mots. Il y a toujours, heureusement, et c'est signé Yann Moix, du fond. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce qui va arriver maintenant. Voici Daniel Morat, messieurs dames.
En tout cas,
il y a la forme.
Non, c'est non.
Quoi ?
Non, il veut pas Alain Juppé. Il veut pas être le plan B des Républicains si François Fillon ne veut pas aller au bout de son projet présidentiel. Alors, ça se présentera peut-être pas, puisqu'hier, Mister Sourcil a déclaré qu'il s'excusait auprès des Français pour avoir employé des membres de sa famille, mais qu'il ne renonçait pas à sa candidature. Juppé a toujours pas digéré, en fait, sa défaite de la primaire. Non, parce que le maire de Bordeaux, il pourrait répondre calmement quand on lui demande s'il pourrait prendre la place de Fillon, en cas de besoin. Il pourrait dire « Non, non, je ne souhaite pas, je suis passé à autre chose, merci, bonne journée ». Mais le Alain, plus ça va, plus ça l'énerve. Hier, il a balancé à des journalistes « Clairement et définitivement, c'est non, et vous me connaissez ? Non, c'est non !» Ouh là là ! Pas souple, hein, l'ancien Premier ministre. En plus, il est limite agressif. Qu'est-ce que ça va donner si les journalistes continuent à lui poser la question ? Monsieur Juppé, c'est toujours non pour remplacer François Fillon au cas où ? Non, 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 je suis pas du genre à changer d'avis. Sûr de sûr ? Mais bon sang, vous m'agacez à la fin, faut que je vous le dise comment ? Non, c'est non ! Et si jamais François... Mais vous êtes débile ou quoi ? C'est pas difficile à comprendre ! Non ! N-O-N ! Purée, c'est pas vrai ! Mais si le parti vous demande... Ferme-la ! Oui, ferme-la maintenant, j'en ai plein le dos de cette question. Je veux plus l'entendre, c'est compris ? Oui, c'est compris, mais quand même, on sait jamais si... Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule, espèce de con ! Si tu me redemandes si jamais je suis candidat à la place de Fillon, je te pète la gueule, connard ! Fillon, il a fait le con, je suis pas là pour réparer les conneries d'un bouffeur de rillettes dépressif. Merde à la fin, vous me faites tout chier. Encore une question ? Non. Parfait. Alors, espérons que sa mauvaise humeur, il la garde pour les journalistes. Sinon, c'est pas vivable dans la vie de tous les jours. Bonjour, monsieur Juppé. Qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui ? Je vais vous prendre une baguette et un flan. Ah désolé, on n'a plus de flan, je veux autre chose, tenez, j'ai de délicieuses religieuses. Non, non, je veux pas de religieuses, je veux un flan. Je vous assure que nos religieuses sont délicieuses. Mais tu te fous de moi, bordel! Je m'en fous de tes religieuses, tu m'as pris pour Fillon ou quoi? Mais monsieur Juppé, enfin c'est quand même un comble de ne plus avoir de flan à 10h du matin, vous êtes un incapable, un boulanger minable! Mais monsieur le... T'es crétin! Pourvu qu'à la maison, il soit calme.
Tu veux qu'on aille au ciné, Alain?
Non, j'ai pas envie!
Allez, il y a un film qui me plaît bien.
Non, tu m'emmerdes avec ton ciné!
C'est un film des frères Dardenne, allez viens.
Lâche-moi! Non, c'est non, si tu crois que j'ai envie de passer mon temps libre à regarder des films de dépressifs, tu te gourres. J'en ai rien à foutre des Dardenne. Je déteste les Belges, voilà. Mais enfin, là, tais-toi, fous-moi la paix. Ce soir, je vais regarder Hanouna et Top Chef. Ça va se tasser, cette histoire. Voilà, c'est juste quelques jours à patienter. Après, si François Fillon ne veut plus y aller ou qu'il ne peut pas y aller, ben la droite se choisira un autre candidat. Candidat irréprochable et sans casserole, je sais pas, un Sarkozy, un Balkany. Bon, en attendant, on parle tous de Juppé et de Fillon, mais je vous rappelle que pendant ce temps-là, pendant qu'on regarde ailleurs, il y en a une qui est toujours au top dans les sondages d'intention de vote avec plus de 25% au premier tour. Restons vigilants, à demain.
Merci, Diane.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Et Yann Moix étant notre invité, voici Sur Mesure, un brouillon de culture signé Leïla Kadour Boudedi pour Yann Moix.
Oui, Yann Moix, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous.
Ne la suivez pas.
Non, mais je ne vais pas la suivre.
C'est lui qui m'a abordé, je ne sais pas pourquoi. Nous, on le sait. On sait très bien ce que tu voulais faire. Mais je voulais rien lui faire.
Qu'est-ce que tu lui voulais alors?
Qu'est-ce que tu faisais? Mais rien de mal.
Où voulais-tu l'emmener?
Où tu voulais l'emmener?
Alors cette dame-là, elle vient de me faire croire qu'elle était de la police. Et ça, c'est un des grands trucs dont on m'a prévenu ici. C'est qu'il y a des gens qui se font passer pour la police, qui te demandent de les suivre et qui après t'attaquent. C'est la mode en ce moment, malheureusement, en Bolivie.
C'est un extrait...
Antoine de Maximi en Bolivie, je crois.
Ouais, c'est ça. J'irai dormir chez vous. Ces fabuleuses aventures. Il vient d'échapper ici à une attaque en Bolivie, d'une certaine façon. Voilà, il vient d'expliquer le processus. Je crois savoir que vous êtes assez fan d'Antoine de Maximi.
Ah oui, pour moi, c'est un très grand. Ouais. Il est à La Paz, je crois, là. C'est un très, très, très grand. Il m'a redonné, j'ai toujours adoré voyager, mais il m'a redonné le goût du voyage. Et c'est un peu grâce à lui que je suis parti tout seul avec ma petite caméra. Non pas pour l'imiter, parce que j'ai pas toute la prétention de me montrer comme lui et puis d'aller dormir chez les gens. Mais il m'a donné vraiment l'envie de faire le tour du monde tout seul, en fait. Parce qu'on n'ose jamais vraiment voyager seul.
Ouais.
Et maintenant, je pense que je serais incapable de voyager à deux ou à plusieurs. Je pense que le voyage seul est une manière de découvrir l'autre qui est tout à fait faramineuse. Et pour moi, c'est le Mozart du voyage, Antoine de Maximi.
Oui, enfin, il y a des choix entre voyager seul pour aller, en Grèce, en Italie, et aller en Corée du Nord, qui est quand même pas non plus l'endroit le plus calme possible.
Bah, moi, je me sens bien en Corée du Nord, mais c'est...
D'accord.
Ça relève peut-être de la psychiatrie, mais parfois je me sens mieux en Corée du Nord qu'en France. Ça m'arrive. Là-bas, ils sont
carrés,
ils sont polis, oui. Ils sont carrés. Il n'y a pas d'incivilité.
Ah, vous aimez la dictature alors?
Parfois, oui, j'aime bien la dictature. J'aime pas le régime nord-coréen. Je vais pas dire ça, mais je veux dire.
Vous allez pas dire ça, si vous le pensez, dites-le.
Non, c'est pas ça. Il y a en Corée du Nord quelque chose dont on ne parle jamais, c'est une population. Et la population nord-coréenne, qui est une population qui est sous le joug, qui est évidemment
qui subit,
endoctrinée et qui subit.
Ouais.
Donc je ne fais pas l'apologie du régime, mais je dis parfois que il y a dans l'éducation coréenne, on la retrouve d'ailleurs au sud, quelque chose qui est faite, qui est basée uniquement sur le respect de l'autre. Mais là, c'est poussé à son paroxysme, évidemment, en Corée du Nord. Mais entre une baston de Kaera à Paris et une journée à Pyongyang paisible, je préfère la journée de Pyongyang paisible. La Corée du Nord, c'est pas noir tout le temps. Il est clair qu'on aimerait que ce régime obscurantiste cesse et qu'il soit remplacé par un régime démocratique.
Ouais, il faudrait peut-être comprendre pourquoi il y a une baston de Kaira quelque part et de l'autre côté, pourquoi c'est paisible de
mais
l'autre.
Souvent, vous savez, en France, tout n'est pas explicable pour ce que Nietzsche appelait la pulsion causale. Et à force de toujours trouver des excuses à des gens qui nous pourrissent en fait l'existence au jour le jour.
Non, mais je parle de chercher des solutions, pas trouver des excuses.
Oui, d'accord, mais souvent, dans le fait de chercher des solutions, et c'est ce que disait Emmanuel Valls, qui s'est fait taper dessus pour cette phrase que je trouve tout à fait juste, au bout d'un moment, toujours se flageller pour savoir pourquoi ces pauvres petits sont malheureux, alors qu'une des motivations, souvent, c'est simplement de foutre la merde gratuitement. Non, mais gratuitement. Il faut arrêter de penser que les gens... Vous savez, toujours, on dit, c'est dégueulasse de stigmatiser les musulmans à cause d'attentats. Mais il y a une autre catégorie de personnes qu'il faut faut arrêter de stigmatiser, c'est les gens qui sont dans la misère sociale. Parce que les gens qui sont dans la misère sociale et dans la pauvreté ne se transforment pas tout le temps en délinquants. Et je peux vous dire que au bout d'un moment, toujours justifier la dégueulasserie de petits cons qui dans le métro agressent les gens gratuitement, qui nous emmerdent à brûler des bagnoles gratuitement pour une espèce de revanche dont on ne sait d'où elle sort, alors que la plupart des gens qui sont dans la misère sociale ne font rien de mal. Vous savez, il y a une phrase de Sylvain Tesson qui me... Là, je me mets un peu en colère parce que j'en ai marre de la racaille, en fait. Et je crois que beaucoup de gens en ont marre de la racaille. Et le mot racaille a été confisqué par l'extrême droite et par la droite. Et moi, qui ne suis vraiment pas de ces bords-là, je peux vous dire que je l'utilise sans problème parce que Sylvain Tesson a dit un truc très juste un jour. Il a dit « La France est un pays de gens qui sont au paradis et qui se croient toute la journée en enfer. » Donc les petits combats des petits cons toute la journée, qui molestent gratuitement les gens, qui agressent des personnes et qui font qu'à cause de leur connerie, on finit par tomber dans la case, dit on, beaucoup de Français du Front National, font que c'est vrai qu'en Asie, quand vous voyez que les gens sont dans la politesse, le respect, la civilité, quand on vient en France, on a l'impression de venir dans la jungle. Et ce petit coup de gueule gratuit, Nagui, n'est pas un coup de gueule de réac, mais un coup de gueule d'un type qui ne veut plus qu'on confisque, que ce discours soit confisqué par des gens qui sentent la mort.
D'accord. En vous écoutant, je me disais, enfin, juste avant le coup de gueule, que je vous verrais bien écrire un récit de voyage. Non, mais c'est vrai. Non, mais en même temps, ce que vous dites,
c'est intéressant. Je pense un truc, c'est casse-toi.
Non, c'est pas du tout ça. Non, je dis que c'est intéressant. Puis après, je crois que la position de Manuel Valls que vous venez d'évoquer, elle est pas inintéressante non plus. Sauf que il faut aussi savoir faire la distinction entre tout d'un coup ce que vous appelez vous la racaille,
oui,
ceux qui font, j'assume ce mot. Voilà, hein. Qui cherchent des ennuis gratuitement.
D'ailleurs, je vais écrire un livre qui va s'appeler Racaille, parce que j'en ai marre que ce mot soit confisqué par la droite et par l'extrême droite, et que c'est tout à fait hypocrite. Tout le monde sait. En France, en ce moment, il y a une racaille. D'ailleurs, les gens qui partent faire le djihad, c'est pour réinstituer. David Thompson l'explique très bien. Racailleland, toutes les incivilités, grandeur nature sur les terrains, le rap, le shit, les nanas auxquelles on manque de respect, les Français sur le terrain là-bas, choquent même les djihadistes les plus aboutis par leur comportement avec les femmes.
Il y a une sorte d'incivilité. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que c'est associé à un mouvement musical.
Ils expliquent que la première chose qu'ils font là-bas. Non, mais attendez, tout est miné en France. En fait, à chaque fois que vous dites un mot en France, le mot est miné. Et dès que vous marchez sur le mot, quelque chose explose. Et quand vous parlez avec les gens...
C'est vous qui venez de le miner en disant que le rap était une insulte.
Non, j'ai dit certain rap qui appelle à la mort, à la destruction, etc. D'accord. J'adore le rap par ailleurs. Donc, voilà. Et je peux vous dire une chose. Le livre de David Thompson est passionnant parce qu'on voit très bien qu'ils essayent d'instituer là-bas toutes les incivilités ici qu'on essaye de leur demander de garder dans leur poche. Là-bas, c'est racailleland, Raka. Et quand je dis racaille, il n'y a pas de stigmatisation, puisque c'est un mot qu'on aime beaucoup, y compris sur France Inter, sur toutes les radios, de milieu social. Je répète, la racaille, c'est pas forcément des gens défavorisés, je viens de le dire. C'est des gens aussi qui croient qu'il faut avoir ce genre d'attitude pour exister. Et si vous voulez, et après je me tais là-dessus, c'est que toutes les conversations, des gens de gauche comme des gens de droite, et Hollande dans le livre avec les deux journalistes du Monde le dit qu'il y a un problème. Il y a un type d'individu en France qui sème la zizanie, qui fout la merde. Tout le monde dans les conversations parisiennes le reconnaît, mais on préfère mourir que de le dire dans un micro à la radio. Oui, en France, je vais le dire, et tant pis si ça choque les auditeurs de France Inter, il y a une catégorie de la population qui n'est pas forcément défavorisée, que j'appelle la racaille. Dedans, il peut y avoir des Français de toute éternité, comme le dirait Marine Le Pen, et c'est ça qui est grave d'ailleurs, c'est qu'on ne peut plus appeler quoi que ce soit comme il le faudrait. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Des blancs européens. Dedans, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Coréens, il y a de tout, si vous voulez. Il ne faut évidemment pas dire que ce que j'appelle racaille viendrait des milieux arabes, musulmans. C'est faux.
Il y a des voyous partout.
Non, mais le mot est connoté. Le mot est connoté, donc le mot est chargé.
Vous voyez
et c'est
bien
là où je dis que si vous faites la distinction en faisant cette définition-là, c'est un terme qui peut être réutilisé ensuite.
Justement,
on en parle toujours. J'essaie
de l'arracher à ceux qui l'utilisent toute la journée, les casseurs, etc. Il y a une bande de types qui, en France, vraiment commence à agacer les patients, contre lesquels on ne fait rien parce qu'on a justement peur qu'à chaque fois qu'on les touche, tout d'un coup, ça va être récupéré soit par l'extrême droite, soit par l'extrême gauche. Il faut arrêter d'être pris dans un étau entre d'un côté avoir peur de passer pour un raciste et de l'autre passer pour un facho. Appelons un chat un chat, il y a une bande de connards. Parce que souvent, vous avez bien remarqué que les casseurs viennent des banlieues et que statistiquement, il est possible de montrer dans les émissions de télé, de manière falsifiée d'ailleurs, que c'est souvent les mêmes qui foutent la merde. C'est pas vrai. On a bien vu que ceux qui avaient cassé les hôpitaux contre les enfants malades, c'était des gamins de Neuilly, des fils à papa. J'appelle racaille, non pas des catégories sociales, j'appelle ça simplement les jeunes qui foutent la merde. Et dedans, il y a toutes les catégories sociales.
Des incivilités.
Et l'État a peur parce qu'il pense de manière erronée que ce ce sont toujours des Arabes, des Algériens, des Marocains, ce qui est faux. Et donc, parce qu'il a cette vision du monde erronée, il va avoir peur de stigmatiser une partie de la population qui n'est concernée que comme toutes les autres.
C'est pour ça que je m'étonne juste de ce choix de mots, puisque je parle à un auteur, à un homme de lettres, et je me dis que la confusion, elle est tellement tentante ensuite.
Pas dans mon esprit.
Pas dans le vôtre, mais vous savez bien que le mot, une fois que vous l'avez prononcé, il vous appartient plus.
Et bien justement, il faut avoir le courage de le prononcer, de l'arracher à tous ceux qui l'utilisent toute la journée. Mais ce mot me paraît tout à fait prégnant de manière théorique.
On poursuit avec un autre sang pour
alors,
vous, Yann Moix.
Le choix du titre de votre album, Encore heureux, est extrêmement intéressant. Car en araméen antique, encore se dit Ra'arch et heureux se dit Esbirar. Or, et vous allez voir, c'est extrêmement drôle. Quand on relie les deux mots et qu'on les traduit en allemand, on obtient le mot Entgegenkommend, qui signifie sympathique. Car, que nous dit Lévinas ? Que la sympathie n'est pas une affection naturelle sur laquelle on peut fonder une morale du sentiment. Donc, la question qui se pose, Zazie, elle est évidente et elle est simple. Comment vous est venu ce choix de ce pantalon?
C'est votre imitation par Marc-Antoine Lebray, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, si je dois jouer la pyramide et trouver dans les noms propres Yann Moix, je dirais Lévinas. En un, Lévinas, et on doit me répondre Yann Moix. Est-ce que depuis que vous êtes chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, votre image vous appartient encore? Est-ce qu'il n'y a pas une tentation aussi de vous pousser à faire du Yann Moix d'une certaine façon?
Non, je pense, Nagui, qui me connaît depuis des années, c'est que je suis à peu près exactement le même à la télévision.
A toujours été comme ça.
Je crois que c'est pour ça qu'on m'a choisi. Et j'ai eu du mal à être moi-même au début. Oui. Parce que c'est difficile d'être soi-même dans une émission de télé. Vous savez que c'est regardé par plein de gens, il y a un public, etc. Puis le naturel revient au galop. Et le naturel, c'est, chez moi, c'est d'essayer de toujours dire la vérité. C'est pas naturel de dire en face à quelqu'un, ton livre n'est pas bon. Dans la vie, on le fait jamais.
Non. On évite ces situations.
Super ton livre. Qu'on l'ait lu ou pas. Alors moi, je l'ai lu intégralement. J'essaye de dire en face à quelqu'un, c'est vraiment pas bien ce que tu as fait, ce que vous avez fait. Ce qui fait que parfois, je dis du bien de quelqu'un que je n'aime pas et du mal de quelqu'un que j'aime bien. Oui. Et c'est un exercice terrible.
La nuance, ça serait pas de dire votre livre ne m'a pas touché ou votre musique m'a pas parlé parce que c'est pas bien. Il y a un côté manichéen.
Il y a
qui
un côté
un peu...
Télérama et après voilà.
On peut être ému. Je suis mal caricaturé, mais en fait, c'est ce que je fais. Je prends des pincettes en général. J'essaye toujours de voir ce qu'il y a de positif par ailleurs. J'amène ça de manière un peu perverse. Pour dire la vérité. Mais si vous voulez, dire la vérité, c'est le sens de cette émission. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Et je finis avec un cadeau pour vous. Dans la collection Écriture, Bernard Morlino, parce que c'était lui, ce sont toutes les histoires d'amitié littéraire de Montaigne et la Boétie à Boudard et Nucera. Ça, c'est pour vous. C'est une façon de, voilà, ouais, de tisser des liens.
La phrase est de Montaigne et la Boétie,
parce que c'était lui. Et c'est voilà, une façon de tisser comme ça des relations, de très belles relations souvent entre des auteurs qui se sont suivis toute leur vie, sans manigances, sans manœuvres, avec respect.
Boudard venait souvent à ce micro, dans l'ancienne version de cette émission. Je l'avais rencontré. À l'époque, c'était avec Rien à cirer de Roland Ruquier.
Ouais.
Et Alphonse Boudard était un des chroniqueurs de cette émission.
Il venait
souvent ici.
Vous allez continuer l'année prochaine, Laurent Ruquier?
Pour l'instant, Laurent ne me l'a pas proposé, mais s'il me le propose, je le ferai avec plaisir.
Terreur, c'est la nouvelle publication de Yann Moix, c'est cet essai publié chez Grasset. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour tous les acteurs fans d'Hitler qui espéraient être invités dans cette émission. Eh non, on essayait, Nagui a téléphoné à Adolphe pendant l'émission, mais il ne peut pas, il a une exclue, sur une radio dite courtoise. Désolé pour Alain Juppé qui s'est dit choqué d'être passé ici pour un mec qui disait toujours non. Je lui ai envoyé un texto, je voulais m'excuser, je lui ai demandé de bien vouloir m'excuser, il a répondu... Non. Désolé pour Nagui qui ne pensait pas qu'il ne pensait plus à lui. Et voilà, moi je suis désolé, mais je pense que Nagui va y repenser. Nagui, je sais pas, vous en pensez quoi?
Trop compliqué pour moi, ça. Il y a trop de mots pensés dedans. Impossible. Merci Yann d'être venu. On n'a pas eu le temps de tout évoquer, mais parce que ça foisonne encore une fois chez Grasset. Et en même temps, ça prête à débattre et à réfléchir. Portez-vous bien.
Merci de votre invitation, Nagui.
Soyez
Merci
prudent vous. Si vous retournez en Corée du Nord, s'il vous plaît.
Capillairement au moins.
Ce sont les carnets de campagne dans quelques secondes avec Philippe Bertrand. Bonjour,
salut Nagui.
Salut Philippe.
Je voulais juste dire que demain c'est Guillaume Canet que nous recevrons pour Rock'n'Roll.
Super le passage d'antenne après ça quand même. Je sais pas comment je vais m'en sortir.
Débrouille-toi mon gars. C'est toi le professionnel.
Ouais, la terreur nous terrasse et elle me terrifie. Je préfère le terreau des terrassiers, celui qui nous nourrit. Tenez, je lance un appel, prenons le terreau par les cornes, pour ceux qui font de la biodynamie, contre la terreur machi. Goûtons bien fait du radis noir et contre les méfaits du radical. Bon, ok, je sors. Oh salut non, les amis. Oh,
j'ai cru entendre Claude Nougaro.
Oui, un tout petit peu, non, il y a des réminiscences.
Non, c'est bien. Bonne émission, Philippe.
Ouais, merci les amis. Au revoir.